Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Les députés de l'opposition d'Ensemble pour la République et ceux d'Avançons MS dénoncent ce qu'ils qualifient d'acharnement de la majorité au pouvoir sur leur siège difficilement acquis à la Cour constitutionnelle. Sur moins de 29 élus de l'opposition sur les 477, plus de 20 députés d'Ensemble et Avançons MS sont en contentieux électoral contre d'autres candidats malheureux de l'Union sacrée. Les élus d'Ensemble pour la République dénoncent une tentative de retour au parti unique. Quelle analyse faire de la déclaration des députés du regroupement politique de Moïse Katumbi? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons à cet effet Gratien Dessin-Nicolas Irachan. Il est député national réélu de la ville de Bounia. Il est délégué général en charge des élus d'Ensemble pour la République et haut représentant de Moïse Katumbi pour la Grande Orientale. Bonsoir honorable Gratien Dessin-Nicolas Irachan.
Bonsoir Kimate, bonsoir à tous les animateurs, auditeurs de la radio Capi.
Lui, il est en ligne, c'est Itiel Batoumik, chercheur à Ebouteli, Institut congolais sur la politique, la gouvernance et la violence. Bonsoir Itiel Batoumik.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Cap.
Et lui va nous rejoindre, c'est le professeur Jean-Claude Tchilumba, il est député national et cadre de l'IDPS, parti membre de l'Union sacrée. Il est l'initiateur et gestionnaire du regroupement politique DESA bar TDC affilié à l'IDPS. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Continuez à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit au sommaire, les députés d'Ensemble pour la République et ceux d'Avançons MS, rescapés de l'opposition, dénoncent ce qu'ils qualifient d'acharnement de la majorité au pouvoir sur leur siège difficilement acquis à la Cour constitutionnelle. En effet, sur moins des 29 élus de l'opposition sur 477, plus de 20 députés d'Ensemble et Avançons MS sont en contentieux électoral contre d'autres candidats malheureux de l'Union sacrée. Les élus d'Ensemble pour la République dénoncent une tentative de retour au parti unique. Ils en appellent au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, magistrat suprême, et au juge de la Cour constitutionnelle, à un dernier sursaut patriotique pour sauver ce qui reste des acquis de la démocratie à l'Assemblée nationale. Princesse Munongo est au micro de Michel Kifindangoy.
Il faut considérer que les rescapés de l'opposition soient moins de 29 élus sur 477, proclamés provisoirement par la CENI, méritent leur siège et ont été régulièrement élus, contrairement à ceux de l'Union sacrée qui détenaient illégalement des machines à voter. Cependant, force est de constater à ce jour, les arrêts attendus de la Cour constitutionnelle, statuant sous pression, risquent de consacrer le retour en force du parti État avec une Assemblée nationale monocolore et instituer ainsi de fait la fin d'une démocratie pluraliste. Cet appel à sauver la démocratie de notre pays s'étend à la protection de la liberté d'expression, à la libre circulation des personnes, notamment pour notre président Moïse Katumbi Tshabwe, et à une justice équitable. C'est dans ce contexte que nous en appelons à la liberté des prisonniers politiques. Salomon Idi Kalonda, Mike Mukebai Koso, Jean-Marc Kabou, Papi Pungu, le journaliste Stanley Boujakera et bien d'autres encore.
Gratien Dessin-Nicolas Irachan, vous êtes député national réélu de la ville de Bounia. Vous êtes délégué général en charge des élus d'Ensemble pour la République et haut représentant de Moïse Katumbi pour la Grande Orientale. Les accusations que vous formulez à l'endroit de la majorité au pouvoir, est-ce des simples allégations ou vous les étayez sur des preuves?
Bon, il faut dire ce qui est vrai et que ce ne sont pas des accusations, mais ce sont des faits, en fait. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il est de fait que nous sommes moins de 29 à l'opposition. Et si je prends l'exemple de la vraie opposition, Ensemble pour la République, avec son regroupement Avançons MS, nous sommes 23. Et s'il faut ajouter l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, on est 24. Bon, s'il faut encore ajouter ce qu'ils appellent encore opposition, il faut aller à Costa Moutambaye, ça fera 25. Et on pense qu'il y a Mouzito avec trois autres élus, donc on est vers 29.
Donc toute il opposition, c'est 29
députés. Et pourtant, on a 477 députés, parce qu'il faut mettre de côté quelques circonscriptions au niveau de Nord-Kivu, notamment Masisi et peut-être Nyiragongo. Bon, Rutshuru plutôt. Alors, vous savez, quand on est moins de 29. En fait, nous représentons moins de 5% à l'opposition. C'est du jamais vu.
À l'Assemblée nationale.
Oui, à l'Assemblée nationale. C'est du jamais vu. Et quand vous voyez même au niveau des assemblées provinciales, c'est encore pire. Où vous trouvez des assemblées provinciales pratiquement où il n'y a pas l'opposition. Je donne l'exemple de Kinshasa, où il n'y a pas d'opposition pratiquement à l'Assemblée provinciale. Moi, je suis élu député de l'opposition pour la grande partie de l'Est. Où vous trouvez à Tchopo, où il n'y a pas un député de l'opposition. Il n'y a pas un député de l'opposition au Nord Kivu. Il n'y a pas un député de l'opposition au Sud Kivu. Techniquement ou politiquement, c'est difficile, c'est presque impossible de l'affirmer ainsi. Bon, on est devant un fait accompli où la CENI a proclamé, mais là où nous avons du mal à pouvoir comprendre la CENI, être convaincu par la proclamation de la CENI, c'est parce que nous avons eu effectivement, et c'est ce que nous avons dénoncé dans notre communiqué, des irrégularités constatées partout dans les pays, et donc des fraudes s'apprécédant. Et nous avons qualifié ces élections d'élections chaotiques. Évidemment, ce sont des élections où on a eu beaucoup de candidats de la majorité présidentielle avec des machines. Dès lors qu'il y a eu ces irrégularités, nous, on a appelé tout simplement à ce qu'on annule ces élections, surtout qu'on n'a pas fait ces élections pendant une journée.
C'est qu'on n'a pas fait, on n'a pas annulé.
Oui, on n'a pas annulé. On est allé à presque 5, 6, 7 jours. Et donc,
vous
il est difficile d'accepter aujourd'hui ces résultats. Mais pour l'intérêt supérieur de la nation, parce que nous devons avancer avec une population qui est en souffrance, qui veut des résultats, qui est dans l'insécurité, qui est affamée, et qui veut que le pays aille de l'avant, au nom de l'intérêt supérieur, nous avons accepté de siéger.
Alors, le problème se situe à quel niveau?
Nous acceptons de siéger malgré les contextes chaotiques des élections.
Et le problème se situe à quel niveau pour le moment?
Les problèmes, justement, parce que maintenant, nous siégeons, mais le peu qui doivent siéger sont attaqués, avec toutes les conséquences possibles. Pourquoi nous le disons?
Attaqués à la Cour constitutionnelle.
Attaqués, oui, par la Cour constitutionnelle.
Attaqués par d'autres députés.
Par d'autres députés au niveau de la Cour constitutionnelle. Voilà. En fait, ce sont des procédures normalement, où chaque candidat qui pense être lésé doit saisir la Cour constitutionnelle. Donc, le contentieux est normal. Mais le contexte dans lequel aujourd'hui nous sommes entrés de subir les contentieux électoraux, c'est un contexte tout autre. Pourquoi? Parce que on sait que les élections qui se sont déroulées étaient d'abord chaotiques, avec des machines partout, mais surtout, on n'a pas eu accès à des pièces. Les pièces que nous connaissons, ce sont des procès-verbaux. Alors, dès lors que vous n'avez aucun moyen d'aller prouver à la Cour que vous avez eu plus de voix que l'autre candidat, alors on se demande comment vont ressembler ces procès. Quels seront ces éléments qui seront considérés comme preuves pour que quelqu'un revendique?
Ok, donc vous inquiétez et sur base de ces inquiétudes, vous soupçonnez, n'est-ce pas, vos amis de la majorité de vouloir récupérer les peu de sièges que vous avez.
Oui, parce que en dehors de toutes ces irrégularités que je suis en train d'évoquer ici, notamment l'absence des pièces, parce qu'il n'y a pas, si vous savez, le président Katumbi aujourd'hui n'a pas saisi la Cour constitutionnelle parce qu'il n'y avait pas de pièces. Lui-même, il était sûr que ça ne servait à rien. Parce qu'on n'a pas y à délivrer.
Et il se fait qu'aujourd'hui, vous êtes attaqué.
Aujourd'hui, on est attaqué.
Et vous êtes obligé de brandir, de montrer les éléments qui attestent que vous avez été effectivement élu.
Vous devez brandir ces éléments, mais ces éléments n'existent pas.
Ça n'existe pas. C'est ça la peur de l'opposition.
Non. Ou alors, il y a quelques pièces qui existent. Mm-hmm. Maintenant, la peur, c'est à quel niveau? Parce que déjà, vous trouvez certains contentieux ou dans des audiences où les ministères publics déclare déjà le dossier, demande à la Cour, au juge, de déclarer recevable et fondé certaines requêtes. Et donc là, ça nous interpelle. Parce que nous tous, nous savons les contextes dans lesquels les élections se sont passées. Et quand déjà les ministères publics, parce qu'on pense, on sous-attend que les ministères publics a pu réunir les éléments de preuve de celui qui est accusé pour déclarer fondé et recevable. Mais malheureusement, ces mêmes ministères publics...
De celui qui accuse.
Oui, effectivement.
Malheureusement, ces mêmes ministères publics ne s'est pas saisi d'office des différents dossiers par rapport à toutes les machines qu'on a retrouvées partout à travers la République. Et donc, vous pouvez être dans un état où les gens ont fabriqué des preuves à preuves parce qu'il y avait des machines partout. Et comment on saura maintenant ces pièces qui sont fabriquées avec des machines illégales? Et alors qu'il y a des députés de l'opposition qui n'avaient aucune machine, parce que c'est prouvé que nous, on n'avait pas de machine, et qui se sont battus à toute vérité, et aujourd'hui qui sont des rescapés, proclamés sur base, on sait qu'il n'y avait même pas de compilation, et donc il n'y avait pas de témoins, on est quand même proclamé. Bon, on ne peut, et tout ce que nous visons, c'est sauver la démocratie.
Et donc vous accusez les députés de la majorité qui vous ont attaqué, n'est-ce pas, de vous attaquer avec des fausses preuves, parce qu'il n'y avait pas des PV des différents bureaux de vote et des différents centres de compilation.
Quand vous avez quelqu'un qui vous accuse devant la Cour constitutionnelle et vous savez bien que lui n'a pas les pièces,
qui vous dit que la personne n'a pas de pièces? Non, parce que la personne, lorsqu'elle vient accuser, comme il est dit, il appartient à la personne qui accuse d'apporter les preuves sur lesquelles il, n'est-ce pas, il base ses accusations.
Mais vous,
et donc la personne, quand elle va à la Cour constitutionnelle, c'est qu'elle elle estime avoir des éléments qui attestent qu'effectivement, elle a raison.
Exactement. Mais vous oubliez que nous sommes dans une audience maintenant. Donc nous sommes dans un procès où il y a échange des pièces. Donc ça veut dire que quand vous m'accusez, il y a la phase d'enquête où vous allez amener toutes les preuves, mais par la suite, vous devez faire l'échange des preuves avec l'autre partie. Parce que donc la partie accusée doit être en possession des différentes pièces que vous avez. Et donc quand il n'y a pas d'échange des pièces, parce que ici, nous nous retrouvons, on se réveille le matin, vous lisez dans les réseaux sociaux, il y a différentes parties qui vont comparaître, ils appellent ça, moi je suis pas juriste, ils appellent ça des requêtes, les extraits des rôles. Et donc, vous êtes surpris avec votre avocat que vous devez comparaître dans moins parfois de 12 heures. Et parfois vous n'avez pas échangé des pièces. Mais après, vous cherchez à connaître s'il y avait quelle pièce versée par la partie accusatrice. Et vous trouvez que non, il n'y a pas de pièce versée qui revendique les sièges en fait. Je donne par exemple mon cas pour ne pas être absent, où vous trouvez quelqu'un qui m'accuse, il parle plutôt de vandalisme électoral. Il dit voilà, ce candidat il a vandalisé un centre, il a soulevé des déplacés pour aller détruire quelque part, alors je voudrais que vous ne puissiez pas les proclamer, il faut qu'il perde ses sièges et que moi je récupère ces sièges-là.
Et donc il n'a pas, lui non plus n'a pas de PV.
Il n'y a pas de PV, parce que normalement, les cotentiaires qui est une procédure normale exige à ce que vous puissiez apporter plus de preuves. Donc, vous apportez des PV qui démontrent que vous avez reçu plus de voix, vous avez obtenu plus de voix que la personne qui a été proclamée et que la Cour vous remette dans votre droit.
Logiquement, ça, en fait, logiquement, vos avocats doivent évoquer ces écueils devant, n'est-ce pas, les juges.
Oui, exactement. Donc, il y a.
Et s'ils l'ont fait. Et pourquoi vous n'avez pas confiance aux juges qui doivent, n'est-ce pas, apprécier la situation et prendre une dernière décision? Pourquoi vous ne laissez pas aux juges de pouvoir apprécier?
Je venais de le dire. Quand vous avez déjà l'avis du ministère public qui vous dit recevable, fondé ou alors recevable, non fondé. Parce qu'ici, il n'y a même pas de recevabilité parce que vous avez beaucoup de dossiers où il n'y a pas qualité. Donc, ça vous inquiète parce que le ministère public, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui connaît les droits. Mais déjà, lui, il vous dit que c'est recevable et fondé. Attention, et vous savez qu'il n'y a pas de pièces.
Alors, vous soupçonnez donc, quoi ça... Vous soupçonnez des injonctions politiques?
Non, c'est difficile de le dire. C'est là où, quand vous voyez dans notre déclaration, nous en appelons au président de la République, qui est magistrat suprême, et surtout au juge de la Cour constitutionnelle. Parce que nous pensons que si jamais ces juges ou les magistrats suprêmes ne se penchent pas avec toute l'énergie sur ces dossiers, l'opposition sera écrasée. Et vous savez que la Cour constitutionnelle c'est son jugement en dernier niveau. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas appel par la suite. Et donc, il faut s'inquiéter parce que dès que la Cour prononce les jugements, c'est fini, vous n'avez plus moyen d'accéder encore à d'autres procès parce qu'il n'y a pas de recours. Donc, c'est là où quand même, il faut s'inquiéter. Pourquoi je vais encore nous exécuter pour terminer? La législature passée, nous étions presque 101 députés de l'opposition de Moïse Katumbi. Et nous étions toujours là à train d'attendre que la Cour puisse se prononcer par rapport au contentieux. Mais à fait des comptes, nous avons perdu 31 députés. D'ailleurs, c'était plus de 30, c'était 50 de députés. Mais après, on est passé par la correction matérielle et on a pu perdre 31 députés. Et de ça, un député, nous sommes rentrés à 70 députés. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas négliger. Et pourtant, même en 2019, on avait un problème. Des pièces, il n'y avait pas de PV. Parce qu'on sait que Corneille Nangaa, il a proclamé à travers les résultats électroniques. Donc ce sont des choses qui nous préoccupent et nous demandons donc au magistrat suprême et au juge de la Cour de sauvegarder la démocratie. Parce que l'Assemblée nationale, un pays ne peut pas fonctionner rien qu'avec la partie au pouvoir. Et donc c'est l'Union sacrée aujourd'hui qui est écrasée. Déjà à 5, moins de 5%, on n'a aucun privilège dans les partages des rôles au niveau de l'Assemblée, dans les débats, ça va être compliqué. Même au niveau des bureaux, il faut négocier. Même au niveau des groupes parlementaires, il faut négocier. Et donc, il faut quand même qu'il y ait une attention particulière du magistrat suprême et du juge de la Cour pour que l'opposition ne soit pas miselée aujourd'hui, hein, pour ne pas dire disparaître.
Merci. Et vous pensez que, à travers cette dénonciation, vous pourriez, n'est-ce pas, influer sur la décision des juges qui n'ont pas encore délibéré? Il faut les rappeler.
Les affaires sont prises déjà en délibéré. Oui. Peut-être que c'est déjà délibéré, peut-être que c'est pas délibéré, mais nous voulons pour l'intérêt supérieur de la nation, parce que vous savez, les élections opposent un groupe de gens qui ont délégué les leurs, qui ont voté. Pour être pédagogique, si moi je suis élu avec 30 000 voix, ça veut dire qu'il y a 30 000 qui sont rangés derrière moi. Et si vous frustrez ces 30 000 contre peut-être 5 000 injustement, vous voyez les conséquences où parfois il peut y avoir des gens qui se blessent pour rien et pourtant le contentieux n'a pas été prononcé comme il faut. Donc les élections, en fait, ce sont des enjeux vraiment sensibles qui permettent à ce que les gens soient représentés. Et quand vous miselez une partie qui était suffisamment élue, sachez que vous exposez les pays. Mais j'ai confiance, évidemment, pour que nos juges ne puissent pas en arriver là. Et merci. Donc, nous, on voulait quand même mettre à témoin la population, l'opinion nationale, tout comme l'opinion internationale.
Merci. Malheureusement, on n'a pas encore le professeur Jean-Claude Chilumbay. Apparemment, il n'est pas encore, même en ligne, il n'est pas encore là. Il est député membre de la majorité au pouvoir, c'est lui qui devait en principe réagir aux allégations d'Ensemble pour la République. Itiel Batoumike, vous êtes chercheur à Ebouteli, Institut congolais sur la politique, la gouvernance et la violence. Comment vous analysez cette déclaration des députés d'Ensemble pour la République et puis des Avançons MS?
Merci Guy. Je pense que la déclaration d'Ensemble pour la République et Avançons MS est légitime, même si sur le plan du droit, elle peut susciter quelques interrogations dans la mesure où, lorsque j'entends l'honorable Gracien, je me rends compte que effectivement, il a dit qu'il n'est pas juriste, je le comprends. Mais on se rend compte qu'il y a quelques confusions. La première confusion que je voudrais relever, c'est lorsqu'il est très inquiet à voir que le ministère public a donné un avis favorable par rapport aux requêtes des candidats de la majorité contre les députés de l'opposition. J'estime que cela ne devrait pas trop l'inquiéter parce que la Cour, elle est indépendante et elle n'est pas liée des avis que donnent les ministères publics par rapport au dossier qu'elle analyse. Donc, la Cour garde son indépendance et pourrait se passer des avis du ministère public lorsqu'ils ne sont pas conformes au droit parce que le juge est lié et soumis à la seule autorité de la loi. Alors, j'ai apprécié lorsque l'honorable évoque que la procédure de recours est normale et donc c'est normal que les candidats qui s'estiment être lésés ou qui estiment qu'ils peuvent remplacer les députés de l'opposition le fassent. Mais là où peut-être le nombre de recours aujourd'hui contre les paix des députés ici de l'opposition pose problème, c'est effectivement au niveau du droit de l'opposition à exister au sein de l'Assemblée nationale. C'est depuis que le pays organise les élections, on voit que c'est la toute première fois que l'opposition, comme l'a dit l'honorable Gracien, qu'on se retrouve face à une situation où l'opposition est presque inexistante au sein de l'Assemblée nationale. Évidemment, comme l'a dit le président de la République lors de sa conférence de presse récente, la faute est aussi en partie à l'opposition qui a soit boycotté dans la globalité les élections pour le cas du FCC ou en partie les élections pour le cas de Lamuka et le Fayulu. Mais il faudrait alors voir dans quelle mesure la petite partie de l'opposition aujourd'hui qui subsiste et qui a accepté d'aller aux élections malgré les irrégularités. Et ça, il faut rappeler que contrairement à 2011 où l'IDPS avait boycotté l'Assemblée nationale avec une attitude républicaine, aujourd'hui Ensemble pour la République a accepté d'aller dans l'Assemblée nationale pour mener le combat républicain au sein des institutions représentatives. J'estime que ça, non seulement c'est une décision qui respecte les peuples, mais c'est aussi une décision qui respecte les institutions, puisque c'est l'intérêt du pays qui doit être mis en avant. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'il est aujourd'hui important que les paix de sièges qui sont alloués à l'opposition soient protégés afin que cette opposition puisse avoir le droit d'exister comme le reconnaît l'article 8 de la Constitution qui d'ailleurs érige en infraction de haute trahison le fait que l'on tente d'instituer un parti unique ou une pensée unique. Et donc aujourd'hui, il y a nécessité de veiller à ce que les recours qui sont dirigés contre l'opposition ne parviennent pas à perturber déjà le pied de siège, parce que déjà, si le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'est pas modifié, on voit que l'opposition va peiner même à avoir un groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Mais en même temps, il faudrait que la Cour garde son indépendance, et cette indépendance n'est pas que vis-à-vis du pouvoir en place ou disons de l'exécutif. Cette indépendance, c'est aussi vis-à-vis de l'opposition. Donc l'opposition ne devrait pas trop faire de pression sur la Cour constitutionnelle, parce qu'elle doit examiner en toute indépendance les dossiers qui lui sont soumis, mais tout en sachant que lorsque face à un déséquilibre aussi flagrant que celui auquel on assiste aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le président de la République effectivement peut être interpellé pour veiller à ce que l'opposition soit représentée. Et d'ailleurs, ça ne sera pas la première fois que le président de la République intervienne dans le cours du fonctionnement de la justice, comme il a fait en 2019 lors des contentieux électoraux, en recevant le président de la Cour constitutionnelle pour lui demander de corriger quelques erreurs flagrantes qui s'étaient glissées dans les contentieux électoraux. Et on a vu qu'à cette époque-là, la Cour constitutionnelle avait appliqué à tort ou à raison la procédure de correction d'erreurs matérielles pour essayer de repêcher quelques députés qui avaient été invalidés injustement par la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, j'estime donc que l'alerte d'Ensemble pour la République permet à la République peut-être d'éviter les ridicules, de revenir sur la procédure de correction d'erreurs matérielles en veillant à ce que, par exemple, les sièges qui ont été attribués à l'opposition soient protégés. Et cela est possible déjà parce que d'ailleurs la CENI elle-même intervient dans le procès électoral en tant qu'experte et pourrait, à travers ses mémoires, donner d'autres éléments d'appréciation à la Cour constitutionnelle pour éviter que l'opposition soit dépossédée de ses sièges. Mais je voudrais quand même insister qu'on arrive dans tous ces débats aujourd'hui parce que la CENI n'a pas respecté scrupuleusement les dispositions légales qui lui imposent la traçabilité des résultats. Aujourd'hui, l'article 69 de la loi électorale prévoit que la CENI doit publier les soubassements des résultats sur son site internet, et on a vu jusque là que la CENI n'a publié que les résultats détaillés des élections, de l'élection présidentielle, alors que pour l'élection législative, il n'y a pas toujours des détails des résultats bureau par bureau comme le prévoit la loi électorale. La CENI devrait aujourd'hui être en mesure de nous dire tel député a eu combien de voix dans tous les bureaux de la circonscription électorale. Elle ne l'a pas fait. Et donc aujourd'hui, la CENI est aussi appelé à se rattraper par rapport à ses obligations légales, non seulement de publier les résultats détaillés des législatives, ce qui pourrait aussi pallier le problème des carences, des preuves qu'évoquait le député tout à l'heure, et cela ferait en sorte que les réclamations qui manquent de soubassement ou les défenses des députés de l'opposition puisse bien se dérouler. Ne pas publier les résultats détaillés et leur soubassement nous plonge dans cette confusion effectivement qui est dénoncée par Ensemble pour la République. Et donc, pour me résumer, je dirais que la démarche des députés ou des candidats de la majorité est légitime, comme le reconnaît l'honorable, et que de toutes les façons, il faut rester quand même conscient que l'opposition est sous-représentée à l'Assemblée nationale et qu'il y a nécessité de protéger l'épée des députés qu'il y a à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour espérer avoir un autre son de cloche face à l'écrasante majorité de l'Union sacrée. Sinon, on irait vers la pensée unique, ce qui est totalement contraire à l'esprit et à la lettre de la Constitution du 18 février 2006.
Oui, vous relevez, vous évoquez, vous rappelez même le fait qu'il n'y a pas eu de traçabilité. Hein. Les gens ne détiennent pas des PV, des bureaux de vote, des centres de compilation. Vous dites que la CENI n'avait pas publié les résultats bureau de vote par bureau de vote. Mais dans un tel contexte, est-ce qu'il est facile techniquement de modifier les scores d'un candidat au profit d'un autre candidat?
Alors, normalement, la CENI a l'obligation de transmettre les détails de tous ces résultats et leur soubassement à la Cour constitutionnelle et d'ailleurs à toutes les juridictions qui interviennent dans les contentieux électoraux. Et normalement, lorsque le juge veut annuler l'élection d'un candidat donné, il doit normalement faire le recomptage des voix, parce que le recomptage des voix, c'est une mesure exceptionnelle à laquelle les juges ne recourent que dans des cas exceptionnels. Et donc, pour annuler l'élection ou donc pour invalider un candidat, normalement, le recomptage doit se faire pour que l'on prouve que le candidat qui conteste l'élection d'un député aujourd'hui a eu plus de voix, et cela suppose qu'il y ait recomptage, et le recomptage doit se faire devant toutes les parties au procès. Mais je crois comprendre, selon ce que l'honorable Gratien a dit, qu'il y a aussi des accusations du fait de vandalisme de matériel, mais comment est-ce que le candidat sait le prouver si la CENI elle-même ne l'a pas relevé dans ses décisions d'annulation des suffrages de certains candidats ou ne les relève pas devant la Cour constitutionnelle lors du contentieux. Donc, je reste convaincu qu'aujourd'hui, il est possible d'introduire les recours, mais tout recours ne conduit pas nécessairement, bien qu'il y ait avis favorable du ministère public, à l'invalidation d'un député déjà validé provisoirement, bien sûr, par l'Assemblée nationale.
Donc, vous, en fait, quand vous entendez les cris d'alarme, n'est-ce pas, lancés par l'opposition, vous vous rendez compte que l'opposition a peur parce que elle ne détient pas, n'est-ce pas, les éléments sur base desquels, n'est-ce pas, elle peut aujourd'hui affirmer que tel siège lui appartient et tel autre ne lui appartient pas. Mais si effectivement la majorité a la cette intention, n'est-ce pas, d'affaiblir davantage l'opposition, c'est-à-dire de récupérer, comme l'opposition l'a dit, les peu de sièges que cette opposition a pu obtenir grâce au résultat provisoire de la CENI, et la majorité, n'est-ce pas, au pouvoir peut profiter de ces vides, du fait qu'il n'y a pas de preuves pour récupérer les éléments, les sièges de l'opposition, n'est-ce pas?
Non, je ne pense pas d'ailleurs que la majorité ait cette intention-là d'affaiblir davantage l'opposition, parce que comme je venais de l'expliquer, l'opposition, elle est presque inexistante à l'Assemblée nationale, avec 23 députés dans le camp de Ensemble pour la République, qui se considèrent comme la véritable opposition aujourd'hui. Ils sont même en difficulté d'avoir un groupe parlementaire, et donc ils sont déjà affaiblis et ne peuvent même pas peser dans les débats à l'Assemblée nationale. On verra d'ailleurs, ça reste encore un exercice aujourd'hui auquel nous assisterons, nous voulons voir en tant qu'observateurs comment est-ce que l'Ensemble pour la République va exister au sein de l'Assemblée nationale au cours de ces mandats, parce que le nombre est très faible. Et je me demande comment est-ce qu'ils arriveront à apaiser dans le débat public. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une intention du côté du pouvoir de pouvoir encore amoindrir davantage les nombres de députés de l'opposition. Et je ne crois pas non plus que le manque de preuves des PV du côté de l'opposition soit nécessairement un handicap pour favoriser à ce que la Cour constitutionnelle invalide encore ses députés, parce que la Cour, j'insiste, a l'obligation, la CENI a l'obligation de déposer les preuves à la Cour constitutionnelle, et lorsque il y a nécessité d'invalider un député, normalement, il faudrait faire les recomptages.
Merci.
Ces recomptages se fait à partir des plis des résultats qui ont été déposés par la CENI à la Cour constitutionnelle. Et ça se fait devant la CENI, les candidats dont l'élection est contestée, les candidats qui contestent et la CENI aussi elle-même.
Merci. On avait annoncé le professeur Jean-Claude Tshilumbaï, mais il n'est pas arrivé. Apparemment, on n'arrive pas à les joindre. Et à la place, nous avons Monsieur Bintou Toumba Tshabola Bintou. Il est cadre de l'Union Sacrée. Toumba Tshabola Bintou, bonsoir.
Bonsoir, M. journaliste. Bonsoir à tous les co-débatteurs et bonsoir à tous les millions d'auditeurs de la Radio Capi.
Voilà, vous avez suivi les accusations de l'opposition, alors qu'on sait que la majorité au pouvoir détient plus de 90% des sièges. Et on ne comprendrait pas que cette majorité puisse s'acharner sur les peu de sièges qui restent à l'opposition, Bintou Tshabola Toumba.
Bon, j'avais suivi les déclarations de nos amis de l'opposition, comme tout le monde sur les réseaux sociaux et sur les médias. Mais ici, dans cette émission, comme vous venez à peine de me prendre, je n'ai pas suivi ce qu'ils ont dit. Mais ce que je peux vous dire est que, d'après nos informations et d'après les déclarations de nos amis de l'opposition, je pense qu'ils ont une peur bleue. C'est une peur bleue qui les anime, qu'ils pensent que les 29 sièges qu'ils ont seront ravis par la majorité après le verdict de la Cour constitutionnelle. Je pense que c'est un procès d'intention qui n'est pas justifié, qui n'est pas correct. Puisque même au sein de la majorité elle-même, il y a des partis politiques, il y a des regroupements qui ont attaqué les membres de certains membres de l'opposition. Donc, au niveau de la Cour constitutionnelle, chaque candidat vient de chaque parti vient défendre sa cause. Donc, l'opposition ne peut pas avoir la peur bleue pour dire que ces 29 sièges seront ravis. La majorité n'a pas intérêt à prendre encore d'autres sièges au niveau de l'opposition pour ajouter ce qu'elle a déjà.
Mais ce qui est
vrai, c'est que chacun doit se défendre.
Oui,
donc, lorsque même au sein de la majorité, vous trouvez, regardez bien les procès, les arrêts qui ont été, tout ce qui a été affiché dans la Cour constitutionnelle. Vous trouverez même qu'il y a un candidat de l'Union Sacrée qui a attaqué un autre de l'Union Sacrée. Et qu'est-ce que vous allez dire de cela?
Ok. On dit que vous, les députés de l'Union Sacrée qui attaquent les sièges d'Ensemble pour la République, ils accusent sans apporter les preuves, n'est-ce pas, de leurs accusations. Allô, Toumba Thiabo Labintou?
Ça dépend de son intérêt. Ce que l'opposition doit savoir est qu'après la publication de la liste provisoire par la CENI, les résultats de la provisoire deviennent l'apanage de la CENI. La CENI vient défendre ses résultats. Si l'opposition, par les candidats de l'opposition réellement gagnés, je pense qu'ils ne doivent pas avoir peur, puisque même entre Union Sacrée, il y en a qui se sont entraquisés, même au niveau des mêmes regroupements politiques. Nous avons vu des regroupements politiques où les candidats qui étaient sur une même liste contestent tel ou tel autre. Donc ce n'est pas une première. Mais le plus important est que l'opposition puisse, j'espère qu'avec leur équipe de défense, ils ont apporté des preuves, ils ont apporté des arguments de la Cour constitutionnelle pour que l'opposition ne puisse pas perdre.
Tumba
Donc, il ne faut pas mettre ça sur le compte de l'Union Sacrée.
Tumba
Thiabo Labintou. Ça, c'est une bataille normale au niveau de la Cour constitutionnelle qui s'est faite. Oui, oui.
Voilà, et donc il n'y a pas tentative de retour vers le parti unique comme le dénonce l'opposition.
Non, c'est faux. L'opposition doit savoir. Vous savez que le président, le fait président Étienne Tshisekedi wa Mulumba avait dit que lorsque l'UDP sera au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition dans notre pays. C'est ce que nous sommes en train de remarquer. C'est là où nous tendons, puisque l'opposition se victimise. L'opposition n'arrive pas à défendre ses positions correctement. L'opposition est presque inexistante sur la place publique. Donc, cela veut dire...
Toumba Thiabo Labintou, apparemment, ça ligne pose problème. Toumba Thiabo Labintou. Toumba Thiabo Labintou. Allô, est-ce que vous êtes là?
Je vous écoute, je suis là.
Oui, vous ne trouvez pas légitime les inquiétudes de l'opposition du fait que elle dénonce les faits que ceux qui attaquent l'opposition, ceux qui attaquent les sièges de l'opposition n'apportent aucune preuve. Est-ce que vous ne trouvez pas légitime cette dénonciation de l'opposition?
Non, non. Les revendications, c'est les revendications de l'opposition, les refuser. Les juger, c'est la Cour constitutionnelle qui va juger de leur légitimité si réellement ce qu'ils défendent est vrai, et que celui qui a gagné gagne réellement, que celui qui a perdu perd réellement. Donc ils ne doivent pas avoir peur, ils doivent aller à la Cour défendre leur cause normalement. Il n'y a pas, la majorité n'a pas intérêt à crétiner sur les 29 sièges de l'opposition pour ajouter sur...
Voilà, sa ligne pose problème. Je crois qu'il faut passer aux réactions des auditeurs. Hein. Nous allons maintenant écouter ce que les auditeurs disent au sujet, n'est-ce pas, de cette question. Honorable Gracien Irachan, vous allez réagir, n'est-ce pas, à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
Alphonse Tifou, depuis la ville de province de Kinshasa. Je pense que dans un état de droit, une telle dénonciation ne se justifie pas, car les cours et tribunaux sont faits pour rendre justice à quiconque les sollicite. Et l'opposition...
À mon humble avis, cette déclaration est une préoccupation majeure concernant ce qu'ils perçoivent comme un acharnement de la majorité au pouvoir contre les membres de l'opposition. Et quand ils dénoncent spécifiquement les contentieux électoraux et voient dans ces démarches une tentative de restreindre la diversité politique à l'Assemblée nationale, c'est ce qui pourrait conduire à un retour vers un système politique plus autoritaire. Leur appel au chef de l'État et à la Cour constitutionnelle révèle leur volonté de défendre les principes démocratiques et de préserver l'équilibre des forces politiques au sein de l'Assemblée nationale. Permettez-moi quand même de soulever des questions. Quelles mesures spécifiques les députés d'Ensemble pour la République et Avançons MS propose-t-il pour résoudre les contentieux électoraux et préserver l'équilibre politique à l'Assemblée nationale? Et la deuxième question, comment évaluer-t-il l'impact potentiel de cet acharnement politique sur la stabilité démocratique et l'efficacité des institutions parlementaires dans notre pays, la RDC?
Honorable Gratian.
Je remercie cet auditeur et je le salue. C'est ce qui est vrai. Je ne sais pas si nous sommes en train vraiment de nous comprendre avec les gens qui sont de l'autre côté des dignos sacrés. Évidemment, Toumba, c'est quelqu'un qui parle toujours.
Non, on vous a posé des questions précises. Hein.
Mais
quelles sont les mesures spécifiques que vous prenez, n'est-ce pas, pour résoudre les contentieux électoraux et préserver l'équilibre politique à l'Assemblée nationale? Et la deuxième question, comment vous évaluez l'impact, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle l'acharnement politique sur la stabilité démocratique et l'efficacité des institutions parlementaires dans notre pays?
Oui, je dois quand même recadrer les députés, l'ancien député Toumba Tchabola. Je pense qu'il est le seul Congolais aujourd'hui qui ne voit pas qu'il y ait l'opposition. L'opposition est miselée partout que nous sommes écrasés. Il est peut-être le seul Congolais à ne pas voir ça. Et je reviens encore à 10 ans que le pays est en train de frustrer. Donc, les pouvoirs en place frustrent la population. Et ça a toujours des conséquences. Parce que je vous dis, quand quelqu'un il est élu, il y a toujours des gens derrière la personne. Donc, c'est important quand même qu'on puisse suivre l'équilibre. Et ce que je dis encore pour l'auditeur ici, pour les répondre d'une façon globale ici, on n'a pas de dispositions à prendre pour préserver l'équilibre de l'opposition dans la salle. Nous sommes en train de subir aujourd'hui les multiples violations face à la démocratie de dans notre pays. Qui est ce Congolais qui ne connaît pas que les élections ont été frauduleuses, ont été chaotiques? Qui est ce Congolais qui ne connaît pas? On est en train de faire semblant. Je disais ici, si nous avons accepté, si nous de l'opposition nous avons accepté, c'est parce que nous ne devons pas aller de revendication à revendication. À un moment donné, il faut voir l'intérêt supérieur de la nation et accepter de pouvoir avancer.
Lorsque Toumba Tchabola a dit que vous faites un procès d'intention à l'opposition, à l'endroit de l'opposition, comment vous réagissez?
Non, mais que M. Tchutumba, l'ancien député, nous dise si lui, parce que lui d'abord il a échoué aux élections, et lui-même il a aussi introduit des recours, qu'il nous dise si lui il a toutes les pièces, les PV, pour aller réclamer, revendiquer à la Cour constitutionnelle. Je ne crois pas. Parce que la problématique d'obtention des procès-verbaux a été généralisée partout dans les 26 provinces. Il n'y a pas un candidat, un seul candidat qui a réuni les PV de toutes les voix obtenues.
Alors, pourquoi vous ne laissez pas au juge la latitude, n'est-ce pas, d'apprécier
non,
tout ça?
Non, mais c'est ça justement notre inquiétude. Je le disais, même si un des noms co-débatteurs de
Etienne Batmike.
Oui. Il me dit que bon, les juges libres.
Ils ne sont pas obligés, n'est-ce pas, de suivre la position du ministère public.
C'est une chanson qu'on connaît. Mais le ministère public, là, ce n'est pas quelqu'un qu'on a pris dans la rue. C'est aussi un expert. Mais dites déjà, sur quel fondement on voit les ministères publics, les procureurs, donner un avis favorable quand on sait qu'il n'y a pas un candidat qui peut être en mesure d'apporter des éléments de preuve pour pouvoir faire les décomptes des voix par la CENI elle-même. Donc ça veut dire que déjà, on voit qu'il y a des tentatives d'influence qui vont bien sûr se faire manifester.
Influence politique.
Donc il faut dire les choses comme telles, que pour le moment, nous sommes face à une situation où les élections n'ont pas été transparentes. Les élections n'ont pas été crédibles et les élections ont été chaotiques. On n'a pas tous les éléments nécessaires pour pouvoir apporter des éléments à la Cour. Notre question, la Cour va s'effondrer sur quels éléments pour pouvoir... En fait, normalement, il n'y a même pas débat.
C'est là que, comme l'a dit Batumike, devrait intervenir la CENI.
Et moi, je ne voudrais pas justement qu'on voit aussi comme si l'opposition est en train de pleurnicher. Non, mais l'opposition parle d'une action vraie. Et la vérité est qu'on n'a pas rendu public. Les élections n'étaient pas transparentes. Il n'y avait pas de PV.
Merci.
Et donc, dès lors qu'on n'a pas toutes les pièces, On ne sait pas comment vont se passer maintenant les jugements au sein de la Cour. C'est là où on voudrait quand même que les magistrats suprêmes et les juges à la Cour puissent quand même sauvegarder la démocratie, parce que sinon on risque d'assister effectivement à la disparition de la démocratie, et ça c'est un problème auquel il faut vraiment se battre.
Est-ce qu'on ne va pas vous accuser de vouloir, n'est-ce pas, vous ingérer dans le travail de la justice?
Non, on n'est pas dans cela. Nous avons été clairs dans notre communiqué. Parce que dans notre communiqué, nous avons soulevé, quand vous voyez les premiers points, malheureusement, ça fait en sorte que je suis en train de me répéter, dès lors que les élections se sont passées dans des contextes difficiles, où on ne sait pas aussi statuer à la Cour dans ces contextes-là, ça devient compliqué.
Merci.
Et je pense que l'autre co-débatteur l'avait déjà dit debout, et dit que non, il y a des problèmes en amont, et aujourd'hui, on doit attendre les pièces qui viennent de la CENI.
Voilà.
Mais ces pièces-là viennent de la CENI. Or, comme vous l'avez dit, celui qui acquise devrait apporter aussi des preuves. Mais
ouais, celui qui acquise n'a pas de preuves. Tout ça, les juges vont apprécier.
Celui qui acquise n'a pas de preuves.
Les juges vont apprécier tout ça. Itiel Batoumike, vous allez aussi réagir à la réflexion de notre auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
Alphonse Tiefou, depuis la ville-province de Kinshasa. Je pense que dans un état de droit, une telle dénonciation ne se justifie pas, car les cours et tribunaux sont faits pour rendre justice à quiconque les sollicite. Et l'opposition ne doit pas se comporter en demandant des faveurs au pouvoir en place. Or, le jeu politique et démocratique exige les rapports de force. Et donc, il n'y a pas d'acharnement contre l'opposition. S'ils ont vraiment gagné aux élections, ils doivent apporter leurs preuves et c'est à la justice de faire son travail. Cependant, nous demandons à la Cour constitutionnelle de traiter les contentieux en toute indépendance et non en se faisant intimider ni par le pouvoir en place, ni par cette demande des députés de l'opposition.
Itiel Batoumike.
En partie, l'auditeur dit la même chose que nous disons avec les députés au studio. Donc, on ne demande pas que la Cour soit intimidée. On demande que la Cour reste indépendante et je suis convaincu qu'elle usera de son indépendance pour dire le bon droit et finalement donner raison à ce qui le mérite. Mais la CENI, comme je l'ai déjà dit, porte une grande responsabilité dans cette confusion qui s'installe aujourd'hui, puisque lorsque l'auditeur parle de preuves à apporter, il ne doit pas oublier que ces preuves-là n'existent pas, et conformément à l'article 69 de la loi électorale, la CENI, non seulement qu'elle doit publier les résultats détaillés des élections législatives comme elle l'a fait pour la présidentielle, ce qui est une bonne chose, elle doit encore en plus publier les procès-verbaux qui sous-tendent les résultats des législatives, ce qui n'a pas été fait. Mais nous espérons qu'elle a réellement transmis à la Cour constitutionnelle et à toutes les autres juridictions compétentes les procès-verbaux qui sous-tendent les résultats qu'elle a publiés pour les différentes élections et que, en cas de nécessité de recompter les voix pour départager les partis en contestation, il faudrait que la Cour constitutionnelle ne prenne pas une décision qui n'a pas de soubassement sur les preuves et qu'elle consulte les plis des PV qui lui ont été déposés par la CENI. Autrement, ça sera une violation de la loi et ça sera une entorse à la démocratie, puisque l'opposition est déjà très marginalisée. Il ne faudrait pas qu'elle soit marginalisée. Donc c'est à ce titre-là que je dis que l'appel de l'opposition nous permettrait d'éviter une honte de plus à la haute cour de notre pays si elle arrivait à dire les droits en ne respectant pas la loi.
Merci Toumba Tchabola Bintou. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani, je pense. Kisangani.
Jean Kibifunga Malumalo depuis Isangi, province de la Tchopo. La déclaration des députés du regroupement politique de Moïse Katumbi est fondée. Notre démocratie est très en danger et avance petit à petit vers sa transformation. Dans la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, l'équilibre n'est pas assuré pour qu'on parle de la démocratie. Au regard des statistiques des membres de l'Assemblée nationale actuelle, il est illogique de voir les contentieux des députés de l'opposition rapprocher c'est de l'ensemble des députés de la majorité. À mon humble avis, les résultats de ce travail des commissions de validation des mandats des députés nationaux n'est pas objectif et tout paraît évident de dénoncer une tentative de retour et à la création d'un État à parti unique où l'on veut contraindre tout le monde à adhérer à l'Union sacrée pour valider son mandat.
Bintou Tchabola, votre réaction à la réflexion de l'auditeur qui vient de nous appeler depuis Isangi.
Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier notre auditeur, M. Malumalu d'Isangi, dans la province de la Tchopo. Donc, quand il affirme que la déclaration est fondée, de l'opposition est fondée, je pense que c'est aller trop vite à une conclusion hâtive. Et nous devons tous être patients, attendre que la Cour constitutionnelle puisse dire si cette position, si l'opposition a raison ou pas. Donc ce n'est même pas dans les médias où nous pouvons conclure de ce que l'opposition est en train de dire. Il faut attendre les arrêts de la Cour bientôt dans quelques jours. Bon, pour revenir un peu à mon frère Irachan, que je salue et félicite.
Allô, Bintou Tchabola.
Il doit se calmer.
Allô, on vous suit difficilement. Hein? Voilà, un problème de réseau. Je pense qu'il faut commencer à conclure parce que nous sommes à la fin de l'émission. Gratien de Saint-Nicolas Irachan, je rappelle que vous êtes député national réélu de la ville de Bounia. Vous êtes délégué général en charge des élus d'Ensemble pour la République et haut représentant de Moïse Katumbi pour la Grande Orientale. Et nous devons, n'est-ce pas, conclure. Et après cette dénonciation que vous venez de faire, vous vous attendez à quoi?
Ce que nous attendons, évidemment, c'est les points que nous avons pu soulever et que les magistrats suprêmes et que les juges de la Cour constitutionnelle puissent sauver la démocratie en RDC, parce que c'est vraiment important, nous sommes dans un régime de démocratie. Et vous savez, comme on le dit, la justice élève une nation. Donc il faudra vraiment que la justice se penche sur des sincérités que nous vivons. C'est que le processus n'a pas permis à ce que les gens puissent être dans des conditions aujourd'hui d'obtenir toutes les pièces possibles pour pouvoir compétir et qu'on voit qu'il y a des naissances, des tentatives d'influence qui commencent déjà à apparaître, d'influence politique, et ce qui n'est pas bon, mais nous sommes en train d'espérer à notre cour constitutionnelle, au juge, et je vais terminer en disant que la démocratie, parce que c'est un régime dans lequel nous sommes, peut apporter le développement ou alors le chaos. Donc, une des conditions pour que la démocratie aide le peuple réellement, c'est la crédibilité du processus. Donc, nous avons intérêt à faire un bon processus pour que le pays aille de l'avant, parce que l'intérêt supérieur, c'est de la nation, c'est le peuple.
Merci, Thiel Batoumike, chercheur à Ebouteli, Institut congolais sur la politique, la gouvernance et la violence. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passerait si les candidats ou les députés de l'opposition qui attaquent les sièges les députés de la majorité qui attaquent les sièges de l'opposition obtiennent gain de cause?
Alors, il faudra analyser en tout cas au cas par cas et voir dans quelle mesure le juge a été conforme à ce que prévoit la loi. Et dans le cas contraire, je pense qu'il faudrait ressolliciter, comme en 2019, un nouvel examen de ces requêtes en procédure de rectification d'erreurs matérielles, même si là aussi la loi électorale a évolué un tout petit peu. Et donc aujourd'hui, il y a nécessité que les juges disent les bons droits et que dans son intime conviction et que dans sa motivation, les juges tiennent compte de l'équilibre à avoir au niveau de l'Assemblée nationale, parce que déjà l'opposition est menacée de disparition avec les résultats qui ont été publiés par la CENI. Et pour l'avenir, il faudrait que la CENI puisse vraiment respecter le cadre légal pour ne pas plonger le pays dans des confusions pareilles en publiant les résultats avec tous les détails et en mettant sur son site internet les soubassements qui sous-tendent ces résultats. les éléments de preuve plutôt qui sous-tendent ce résultat.
Merci Touba Tchabola Bintou, vous êtes cadre de l'Union Sacrée. Après vous avoir suivi, on peut donc retenir ce soir que vous n'avez pas, vous à la majorité au pouvoir, vous n'avez pas l'intention d'affaiblir davantage cette opposition en vous attaquant au peu de sièges qu'elle a.
Permettez-moi, avant de conclure, que je puisse recadrer mon frère.
On a plus assez de temps. On a plus assez de temps. Essayez de vous résumer. Résumez-vous, s'il vous plaît. On n'a pas assez de temps.
Oui. Je sais qu'il y a eu des erreurs matérielles. C'est que la CENI, la Cour constitutionnelle va corriger. Mais si je ne suis pas allé à la Cour constitutionnelle, c'est pour des raisons personnelles que je ne peux pas dévoiler dans les médias. En tant qu'homme d'État, quand on va dans une élection, on peut gagner ou bien perdre, c'est l'un des résultats qui peut arriver. Bon, quant à la conclusion, nous demandons tout le monde à la patience. On doit attendre que la Cour puisse rendre ses verdicts. Que c'est là, vous verrez que dans les verdicts de la Cour vont nous orienter si les sièges vont augmenter ou bien la majorité perdra d'autres sièges. Mais se précipiter dans des conditions hâtives, c'est une fuite en avant et inutile. Quand on va dans une justice, ça veut dire qu'on a confiance à la justice. L'opposition doit avoir confiance à la justice comme elle avait eu confiance à la CENI en participant aux élections. Elle doit encore avoir la confiance au verdict de la Cour constitutionnelle. C'est là la démocratie. Il faut accepter quand on perd et puis il faut se réjouir quand on gagne. Donc, la majorité n'a pas intérêt à dire qu'il n'y ait pas d'opposition. La majorité a besoin de l'opposition pour que ça marche, pour qu'il y ait l'équilibre. Mais l'opposition doit mériter les sièges. Ce ne sont pas des sièges qu'on attribue aux gens par complaisance, puisqu'on est de l'opposition.
Merci. Merci, merci à vous, Touba Tchabola Bintou, à Etiel Batoumik et à Irachan, d'avoir accepté, n'est-ce pas, de participer à cette émission. Merci également à Kelly Nkoute qui a réalisé cette émission avec la participation de Mimi Kindou qui était la technique, Clément Chimanga, Jonathan Fouanani et Dervé Voka, sous la supervision de Martin Sebou Jangwe, à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bon sur le programme sur Radio Capi.